l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
À suivre vos réactions sur la politique du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. À l'occasion des 3 ans de son accession au pouvoir, le chef de l'État a accordé dimanche une conférence de presse pour défendre son bilan. Il a été question évidemment de la lutte contre le chômage, d'autant que l'une de ses promesses de campagne était de créer 200 000 emplois avant la fin de son mandat. Officiellement, 121 000 postes ont été créés, un chiffre contesté d'ailleurs par plusieurs associations. On en parlera certainement dans quelques minutes. Tous ensemble. Il a également été question de la relance économique, de la lutte contre la corruption, mais aussi de la situation sécuritaire, car vous le savez, les attaques djihadistes se multiplient dans le centre du pays. On se souvient notamment de l'attaque en juillet de la base militaire de Nampala, qui avait fait 17 morts parmi les soldats. Eh bien, vendredi dernier, pour la première fois, des djihadistes ont pris le contrôle d'une localité de la région de Mopti. Ils ont occupé cette ville durant plusieurs heures. Du coup, le lendemain, donc samedi, le ministre de la Défense a été limogé. Alors le président Ibeka est-il finalement à la hauteur des attentes? Quel bilan dressez-vous de sa politique? En tout cas, récemment, 3 partis ont claqué la porte de la majorité présidentielle. Ils dénoncent notamment des questions de mauvaise gouvernance et ils pointent du doigt l'incapacité du gouvernement à rétablir la paix dans le pays. Nous en parlons ensemble durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70. Vos réactions également sur les réseaux sociaux. Beaucoup de réactions très critiques. Ibrahim, par exemple, nous dit « insécurité, chômage, clientélisme et incompétence notoire sont les mots auxquels sont confrontés les Maliens au quotidien. Bilan négatif également pour Dan. Le président Ibeka, écrit-il, a montré ses limites. Le gouvernement change presque tous les 6 mois. Comment voulez-vous que ça marche ?» s'interroge cet auditeur. Et d'ailleurs, Sogodogo nous interpelle. Ibeka choisisse des personnes compétentes. En 3 ans, 3 premiers ministres. Quel record ! Bama, toujours sur Facebook, nous dit « Ibeka est le spécialiste des remaniements ministériels ». Voilà une critique récurrente sur notre page Facebook. On va voir si Assédou, qui nous appelle de Bamako, est lui aussi déçu par le président malien. Bonjour Assédou.
Bonjour Juan.
Bienvenue, on vous écoute.
Oui, Juan, bien sûr que je suis déçu par le bilan actuel à mi-parcours du monsieur le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous sommes dans une situation très difficile ces derniers temps, notamment la semaine passée, la prise du village de Boni, dans le centre du pays. Ça nous montre une fois de plus que nous sommes toujours dans une situation d'insécurité totale sur le territoire, du nord au sud.
Oui.
Et si à chaque fois des camps militaires sont attaqués par des djihadistes 3, 4 à moto, ça veut dire que le problème d'insécurité perdure toujours.
Enfin, les djihadistes, excusez-moi, Assédou, n'arrivent pas à 3 ou 4 sur des motos. Ils sont lourdement armés, ils sont particulièrement nombreux. Ce qui surprend, et on le comprend quand on est citoyen malien, c'est la facilité avec laquelle, finalement, les djihadistes s'accaparent d'une localité comme celle de Boni, vendredi dernier. On a vu l'armée se replier. Face à l'avancée des djihadistes, on est surpris qu'il n'y ait pas combat.
Oui, mais justement, c'est ce qu'on nous fait croire, qu'ils nous attaquent lourdement armés. Mais est-ce que nos militaires sont réellement sur place? Est-ce que nos militaires sont assez formés pour faire face à ces djihadistes? Est-ce qu'ils sont assez équipés? Parce qu'on a l'impression que parfois les camps même sont désertés. Si le camp de Nampala est attaqué, il y a eu 17 soldats qui sont morts de notre côté, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Jusqu'à présent, le président de la République n'arrive pas à toucher du doigt le problème de l'armée, cette situation qui perdure toujours. Ouais. Nos camps sont attaqués, ça veut dire que nous-mêmes nous sommes en insécurité totale. Donc, je pense plutôt qu'ils nous font comprendre que ces gens viennent lourdement armés, mais est-ce que vraiment, sur le plan sécuritaire, il y a des plans qui sont mis en œuvre pour essayer de pallier à cela? Les réformes annoncées depuis très longtemps, où sont les résultats? On a l'impression que rien ne bouge, rien ne marche au sein de l'armée.
Ouais. C'est vrai, rien ne bouge et en même temps, lors de cette conférence de presse dimanche, le président Ibrahim Boubacar Keïta disait que l'armée malienne était en récomposition, la la formation était en cours. Pour vous, le limogeage samedi du ministre de la Défense Tiemann Hubert Koulibaly est donc tout à fait justifié.
Un limogeage justifié ou pas, ça ne change pas grand-chose. Mmh. Moi, je pense plutôt que le problème se situe au niveau du gouvernement et du président de la République.
Alors, assez doux, ne raccrochez pas. Vous allez pouvoir évidemment continuer à vous exprimer. Moussa, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Gomez.
Vous aussi, vous faites partie des déçus ou pas?
Alors là, non, moi, je ne partage pas du tout l'avis de cet auditeur. Enfin, je ne le partage pas. En tout cas, j'essaie de pas être alarmiste et de prendre les faits et de faire une analyse de ces trois années écoulées. Et sachant que nous sortons d'une période où il y a eu un coup d'État, où il y a des tiers du pays qui étaient occupés, personne ne pensait que l'intégrité du territoire allait être maintenue. Ça, c'est un acquis quand même qu'il faut reconnaître au chef de l'État. L'armée est en formation, ça, on ne peut pas le nier. L'équipement qui est acheté, apparemment. Donc, du coup, l'armée va être équipée. Il faudra du temps pour moi que les mécanismes se mettent en place.
Ouais. Il faut du temps, mais en même temps, il y a urgence, Moussa. Les attaques se multiplient, elles sont de plus en plus nombreuses.
Sûr. Oui, mais on a face à nous des djihadistes, des terroristes. Donc, c'est des gens qui sont pas forcément contrôlables. Le Mali est tellement vaste qu'une armée qui a été, sous-équipée pendant 20 ans, c'est pas l'espace de 3 ans qu'elle va faire face. Tout de suite pour éradiquer ces attaques-là. Disons qu'il n'y a pas que l'armée malienne qui est au nord. Nous avons aussi la MINUSMA,
d'autres
organismes qui sont présentes. Voilà, justement. Donc la guerre, c'est pas. Nous on est à Bamako, c'est peut-être beaucoup plus facile pour nous de faire une analyse assez, j'ai envie de dire, négative là-dessus. Il faut juste pas être alarmiste, donner du temps. Mmh. Et aussi prenons l'exemple sur d'autres pays qui nous entourent. Prenons l'exemple de la guerre en Libye. Nous savons que, bon. La situation sécuritaire au Mali est beaucoup plus, rassurante par rapport à ce qui s'est passé en Libye. Donc, c'est pas pour dire que tout va bien, mais...
Mais beaucoup reste à faire. En tout cas, beaucoup reste à faire. Hier, le ministre malien de la Sécurité a annoncé un renforcement de la protection militaire dans le centre du pays, après notamment la prise de Boni durant quelques heures vendredi dernier. Une prise qui choque évidemment l'opinion publique malienne. Merci Moussa, je remercie Assédou. J'avais promis à Assédou de lui redonner la parole, mais il y a beaucoup de monde au standard. Badara, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Badara, on vous écoute.
Moi je pense que le dernier auditeur se trompe. Quand il dit il y a 20 ans cette armée était sous-équipée, mais il y a 20 ans on n'avait pas d'attaque de ce genre. Alors qu'on arrête un peu. Pendant 3 ans on est en train de reformer une armée. On va renforcer l'armée au nord par des moyens matériels ou humains. Alors moi je dis très franchement, cette armée est en reconstruction, d'accord, mais en 3 ans, on peut quand même sortir des gens qui peuvent nous sécuriser. La sécurité, on ne se leurre pas. Elle n'existe pas au Mali.
Moussa, à l'instant, disait, nous à Bamako, on est un peu privilégiés sur le plan sécuritaire. Vous vous sentez en sécurité, vous, dans la capitale, Badara?
Moi, je dis avoir peur du terrorisme. C'est donner la victoire aux terroristes. C'est donner la victoire aux terroristes. Mais par contre, il y a des gens qui sont payés pour ça. Les militaires, ils sont payés pour ça. Ils rentrent dans l'armée, sachant bien que leur boulot, c'est sécuriser le pays. Alors quand on dit, en campagne, le Mali ne cédera pas un seul mètre carré de son territoire aux djihadistes et à qui que ce soit, et en 3 ans, on voit que des bases militaires sont occupées et sont attaquées pratiquement tous les jours avec des gens en moto, 17 morts, qui sait combien sais-je encore?
Ouais.
17, c'est ce qu'on a dit.
Et cette situation sécuritaire, elle empêche le président Ibeka de dormir. Hein. Il l'a très clairement dit lors de sa conférence de presse. Cela me coupe le sommeil. Je pense, avec beaucoup de conviction, a-t-il ajouté, que nous trouverons une réponse adéquate. Mais là encore, il ne propose pas clairement un plan pour éradiquer, si vous me permettez l'expression, ces mouvements djihadistes. 33 9 693 693 70. C'est la désillusion totale, nous dit Sissoko sur Facebook. La situation sécuritaire se dégrade de jour en jour et la jeunesse, elle, n'a aucune perspective d'avenir. Amadou nous dit également sur Facebook, Kibeka a été élu avec plus de 70% des suffrages, mais si c'était à refaire, il n'aurait pas 10%, nous dit cet auditeur. La situation va de mal en pis, très facile à vérifier sur le terrain, nous dit donc Amadou de Bamako. 33 9 693 693 70. Mamadou, bonjour.
Bonjour, Juan.
Et pour vous aussi, les trois premières années d'Ibeka ont été une désillusion?
C'est une désillusion totale. Nous, on attendait le président de la République Ibeka sur le plan de la corruption, la lutte contre la corruption, mais force est de reconnaître aujourd'hui qu'autour du président, c'est complètement pourri. Il y a une telle corruption tous les jours, quasiment, on a un scandale qui tourne autour de lui. Certes, il a eu la bonne volonté de bien faire, mais je ne sais pas, la seule constance qu'on remarque aujourd'hui, c'est son inconstance. Donc, et ce qui est encore plus... Ce qui est encore pire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est touché par un scandale, on le fait changer de poste. Soit il quitte un ministère pour aller se retrouver à la présidence, soit il quitte la présidence pour aller se retrouver comme ministre.
Ouais. Donc c'est-à-dire que vous avez l'impression que malgré les scandales, les personnes qui seraient impliquées, puisqu'il y a la présomption d'innocence qu'il faut évidemment respecter, mais ces personnes-là, au lieu d'être écartées, elles sont juste recasées dans un autre service de la présidence. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs affaires, plusieurs scandales qui ont éclaté ces trois dernières années. Le scandale des tracteurs, le scandale des engrais, le scandale également de l'avion présidentiel. Laquelle de ces affaires vous a le plus choqué, Mamadou?
C'est celui de l'engrais frelaté et des tracteurs, parce que les deux scandales vont de pair. On peut jouer avec tout, mais on ne peut pas jouer avec les pauvres paysans.
Ouais. Enfin, le scandale sur les tracteurs, le président Ibeka avait promis des tracteurs subventionnés en grande partie aux paysans. Les paysans ont eu ces tracteurs.
Oui,
alors après, qu'il y ait eu une surfacturation ou pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, l'engagement a été pris et on voit bien que la parole a été respectée. Les paysans ont eu leur tracteur.
Oui, mais le prix, c'était pas le prix subventionné. On dit qu'on a subventionné à 50%, mais il s'avère que selon ce que disent certains analystes, le prix auquel on a donné le tracteur aux paysans, c'est le prix d'achat.
Effectivement, d'où la polémique et d'où cette affaire. Merci à vous, Mamadou, de nous avoir appelé. Ousmane, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous dites qu'on ne peut pas dire que tout est négatif depuis qu'Ibeka est à la tête du Mali.
Oui, je crois qu'il faut être serein lorsqu'on analyse le parcours de l'Ibeka. Et il ne faut pas oublier que quand il venait, le pays était à terre, complètement à terre. Bon, on ne peut pas dire que ce soit relevé, mais des choses ont été faites. Il y a, et sur le plan de l'agriculture, il y a eu de gros progrès. Et cette année, on attend quand même des récoltes records. Ouais. Ensuite, il y a la signature de la paix. Et pour l'accord de paix et de réconciliation.
Bien sûr. Alors cet accord dont vous faites référence, Ousmane, il a été signé il y a plus d'un an. Mais pour l'instant, cet accord, excusez-moi, c'est du papier. Il n'y a rien de bien concret encore sur le terrain.
Oui, c'est du papier parce qu'il y a de la mauvaise volonté et un peu partout qui fait qu'on ne peut pas... Quand il y a des combats qui continuent dans le Nord entre des groupes armés, c'est quand même difficile de parler de paix. Mais on est en train de vouloir rallier les gens à la cause du Mali et comme ça, on pourrait aller de l'avant. Mais c'est vrai, il faut le reconnaître que Ibeka a commis de grosses erreurs. Il est venu en guerrier, il a voulu restaurer l'autorité de l'État, il n'a pas pu le faire, il a voulu enrayer la corruption, il n'a pas pu le faire, mais il n'a pas non plus réussi à fédérer les énergies, comme il l'a dit, des Maliens pour la cause.
En tout cas, vous lui accordez un bon point sur la relance du secteur agricole, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, l'agriculture qui fait vivre 80% de la population. C'est vrai que depuis 3 ans, les engrais, les entrants sont subventionnés et on voit bien que effectivement la production décolle. Merci à vous, Ousmane. Daouda, vous êtes à Lyon, bonjour.
Bonjour, Mme Gomez.
La diaspora malienne qui s'exprime également sur le bilan d'Ibeka. Sur quoi vous nous interpellez?
C'est par rapport au bilan économique.
Oui.
Donc, on peut dire que pour le moment, ce n'est pas un bilan qu'on peut flatter. D'autant plus que nous constatons quand même que le Mali est un pays dont la majorité de la population est jeune et qui attend quand même des retombées concernant la gestion de l'or du Mali, concernant la gestion de la CNDT, l'accompagnement du développement textile. Donc sur ces deux points-là, rien n'a changé depuis. Et puis ce qu'on peut retenir d'IBK, c'est qu'il a eu quand même la chance de faire un triplé au Mali. Il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, il a été président de la République. Donc je crois qu'il a suscité beaucoup d'espoir.
Oui.
Et franchement, les gens sont déçus. Parce qu'au niveau de l'économie, rien ne tourne.
Enfin, rien ne tourne, excusez-moi, rien ne tourne, peut-être. En même temps, il y a un chiffre alors qui est contesté. Mais lorsqu'il dit « nous avons créé 121 000 emplois, 121 000 postes depuis le début du mandat », voilà une action concrète.
121 000 postes, il faut vérifier sur le terrain. C'est facile de dire qu'on a créé des emplois, mais il faut les... En tout cas, pour le moment, là, en tout cas, on a constaté quand même que la plupart des jeunes ne sont pas contents quand même de sa gestion politique et économique du pays.
Oui.
Donc, c'est sur le papier, Juan Gomez, pas sur le terrain. Il ne s'agit pas de prendre quelques éléments de son parti pour les donner des postes et dire que j'ai créé des emplois.
Bon.
Les emplois, il faut les répartir sur toutes les régions du territoire.
Oui, et faut entendre... Enfin, faut bien savoir ce qu'on entend par emploi, puisqu'il y a des collectifs de jeunes qui disent « Attendez, si on compte les stages comme un emploi, ce n'est pas la même chose. Donner un stage à la jeunesse, ce n'est pas donner un emploi. C'est très différent. » C'est ce que disent un certain nombre de jeunes militants dans des collectifs. Merci à vous, Daouda. Bonne journée. Youba, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Bilan entièrement négatif, avez-vous dit au Standard?
Totalement négatif, j'allais dire. Bon, ben, je vais pas revenir sur le plan sécuritaire, le plan des affaires, le plan économique. Non, pas du tout, parce que ça a été largement dit. Ce que je voudrais dire, moi, c'est le plan de l'instabilité gouvernementale. Parce que si ça fait 3 ans, on a vu 3 premiers ministres, on a vu combien de... Bon, il y a déjà, il y a 72 heures seulement, le ministre de la Défense partait. Le problème, c'est quoi? C'est que moi, je me dis que si on est aussi imprécis dans le choix des hommes, c'est que soi-même, en tant que dirigeant politique, on a des reproches à se faire.
Oui, mais en même temps, vous savez bien, Youba, que c'est compliqué de faire de la politique au Mali. Vous savez bien que aujourd'hui, le président Ibeka dirige le pays avec une multitude de partis politiques qui ont rejoint la mouvance présidentielle. Donc, il faut composer avec tous ces partis et il faut donc donner des postes aux uns aux autres.
D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je ne parle pas seulement du nombre, mais je parle aussi des motivations. Parce que je voudrais qu'on m'explique quand même comment se fait-il que le 21 mai 2014 seulement, on perdait Kidal et le premier ministre de l'époque indexait nommément le ministre de la Défense de l'époque, qui s'avère être M. Samuel Bougoy Maïga, qui se retrouve maintenant à la présidence comme secrétaire général, sans que le Premier ministre soit interpellé pour nous dire alors s'il avait tort, combien d'hommes nous avons perdus et dans quelles conditions ils sont morts, ou bien il avait raison. Et dans ce cas, M. Samuel Bougoy Maïga et Ibeka n'ont rien à faire à la tête de ce pays encore.
Bon, écoutez, on n'a pas le temps de développer davantage sur ce dossier précis. Merci en tout cas de nous avoir appelés. Il nous reste, une minute, le temps de vous remercier, de remercier les auditeurs. Ne vous inquiétez pas, Boubou, Mama, les autres, on vous rappellera évidemment lors de nos prochaines émissions sur le Mali. Le débat se poursuit en tout cas sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Demain, nous parlerons du dialogue national en République démocratique du Congo. Les travaux ont commencé jeudi dernier. L'enjeu de ce dialogue est de trouver une solution pour organiser des élections crédibles dans les délais qui sont prévus par la Constitution, mais aussi de trouver un accord politique en cas de non-respect des délais constitutionnels. Je vous rappelle que le deuxième et dernier mandat du président Kabila qui est au pouvoir expire en décembre. Le problème, c'est que les poids lourds de l'opposition boycottent ce dialogue national. L'opposition a-t-elle raison de boycotter? Comment sortir de l'impasse? Comment voyez-vous les prochains mois sur le plan politique en RDC? 33 9 693 693 70. On vous attend évidemment au Standard. À suivre juste après l'émission, comme tous les matins, Clérédon, priorité santé. Comment améliorer l'enseignement et l'accès aux soins sur le continent africain.